Nous sommes dimanche, le 13 avril, et nous en sommes au troisième mot d'accompagnement de 2025 au Centre Zen de Montréal. J'aimerais aujourd'hui lire et commenter le cinquième koan du Mumon Kan, Kyogen, l'homme en haut d'un arbre. Mais avant de lire le koan, permettez-moi de dire quelques mots au sujet de Maître Kyogen lui-même. Il a vécu au 9e siècle, c'est-à-dire vers la fin de cette période que l'on a appelée l'âge d'or du Zen, et qui a duré du 7e au 10e siècle en Chine. L'on dit de lui qu'il était un érudit, doté d'une très bonne mémoire, d'une grande intelligence et de nombreux talents. Dès son enfance, il s'était montré avide d'apprendre et doué pour les études. Il commença à pratiquer le zen sous la direction du maître Yakujo. Mais ce dernier mourut alors que Kyogen était encore un jeune novice. Il poursuivit donc sous la direction d'Isan, l'un des successeurs de maître Yakujo. Isan reconnut rapidement l'intelligence exceptionnelle de son étudiant et l'étendue de ses connaissances. Il lui lança cependant un défi. Oublie tout ce que tu as lu ou appris. Dis-moi simplement, avant même que tu sortes du ventre de ta mère, quel est ton vrai soi? Oublie tout ce que tu as lu ou appris. Imaginez maintenant que vous êtes Kyogen et que Maître Isan vous pose cette même question. Avant votre propre naissance, qui êtes-vous? Cela signifie avant même que la moindre idée n'apparaisse dans votre esprit, avant que ceci ou cela, le bien ou le mal, le vrai ou le faux apparaissent, avant même que la moindre croyance, opinion ou intuition apparaisse en vous, qui êtes-vous? Vous n'avez alors aucun corps, aucun esprit, aucune identité d'aucune sorte. Vous ne pouvez vous accrocher à rien pour définir ce que vous êtes. Et pourtant, Maître Isan vous presse de répondre. Avant de naître, qui êtes-vous? Évidemment, Kyogen ne sut quoi répondre. Il retourna à ses livres, espérant trouver dans les mots des sutras et dans les textes bouddhistes quelque chose qui pourrait le mettre sur la piste d'une réponse correcte. Mais en vain. Son maître rejeta toutes ses spéculations et toutes les réponses qu'il balbutiait avec incertitude et hésitation. La question de son maître devint pour lui un koan naturel. Avant même de naître, qui étais-je? La question ne le quittait plus. Il devait y répondre. Mais toutes ses réponses restaient vaines et inutiles. Un jour, profondément humilié et désespéré, à l'idée qu'il ne trouverait jamais aucune réponse, il brûla tous ses livres et tous ses manuscrits, et il supplia Isan. Maître, je vous en prie, dites-moi ce que c'est. Et Maître Isan lui répondit, je n'ai vraiment rien à te donner. Si je te le disais, ce serait ma réponse, et non la tienne. Tu me le reprocherais plus tard. Profondément découragé, Kyogen prit alors la décision de quitter le monastère. Il en demanda la permission à Isan. Je n'ai rien à dire et je suis indigne de rester. Toutes mes études ont été une perte de temps. J'ai entendu dire que personne ne s'occupe de la tombe du maître national. Si vous le permettez, c'est là que j'irai. Je prendrai soin du lieu et je vivrai là. Son maître approuva sa décision et Kiogen quitta le monastère. Il construisit un ermitage à proximité de la tombe du maître national. Celui que l'on appelait traditionnellement le maître national en Chine était en fait le maître de la lignée Shan qui officiait auprès de l'empereur. Il construisit donc une modeste hutte tout près de là et consacra ses jours à patiemment prendre soin des lieux qui avaient été laissés à l'abandon. Mais au plus profond de lui-même, une question revenait toujours. Avant même de naître, qui suis-je? Son koan ne le quittait pas. Un jour qu'il balayait le sol, un caillou sauta sur le côté et vint frapper le manche de son balai de bambou. Au son du caillou contre le bambou, Kiyogen s'éveilla. Il éclata d'un grand rire, retourna à sa hutte et, après avoir revêtu sa robe de moine, il se prosterna plein de gratitude en direction du monastère de son maître en disant « Maître, votre bonté est infiniment plus grande que celle de mes parents. Si vous m'aviez autrefois donné la réponse, je n'aurais jamais connu une joie aussi immense. » Il retourna par la suite au monastère d'Isan, qui confirma l'authenticité de son éveil. Kiyogen reprit alors la vie monastique et devint l'un des grands maîtres indépendants du Shan, le Zen chinois. Kiyogen est l'un de ces maîtres qui, tout au long de leur vie, ont attaché plus de prix à une vie simple, à la liberté et à l'indépendance intellectuelle qu'à la reconnaissance de leurs contemporains. Un jour, un moine lui demanda « Quel est l'esprit de Kiyogen ?» Et Maître Kiyogen répondit « Les plantes et les arbres y sont rares. » Rien ne s'enracine longtemps dans un esprit éveillé. Revenons maintenant au koan. L'homme en haut d'un arbre. Le koan impossible et un peu fou de Maître Kiyogen. Il se lit comme suit. C'est comme un homme en haut d'un arbre. Il se tient par les dents à une branche, sans pouvoir la saisir avec ses mains, ni s'appuyer avec ses pieds. Sous l'arbre, quelqu'un l'interroge sur le sens de la venue en Chine de Bodhidharma. S'il ne répond pas, il se dérobe à son devoir. S'il répond, il perd la vie. En un tel moment, que doit-il faire? Dans le livre « La transmission de la lampe », un volumineux recueil de textes compilés au début du XIe siècle qui présente les biographies des maîtres anciens indiens et chinois, l'histoire complète de ce koan est racontée comme suit. Un moine demanda à Kiyogen: quel est le sens de la venue en Chine de Bodhidharma? Ce qui signifie, quelle est l'essence du Zen? Ou quel est l'enseignement essentiel de Bodhidharma? Et le moine poursuivit en disant, sans parler de vérité relative ou absolue, et sans s'égarer inutilement dans les mots, quel est son enseignement essentiel? Et Kiyogen lui dit alors, « Tu dois en arriver à être comme un homme qui se tient par les dents à la branche d'un arbre. Il ne peut rien dire et il ne peut lâcher. Pourtant, quelqu'un lui pose une question et il doit répondre. Que ferais-tu à un tel moment? » Le moine répondit, « Je ne demanderai pas ce que cet homme doit faire lorsqu'il est dans l'arbre, ni ce qu'il dira quand il en descendra. approuvant la réponse du moine, Kyogen sourit en silence. Lorsque l'on travaille avec ce koan, le plus important est d'en arriver à un point où l'on ne peut plus ni avancer ni reculer. Un point où l'on ne peut plus retenir ni laisser aller la moindre chose. Un point où l'on ne peut plus dire quoi que ce soit ni rester en silence. C'est la seule façon de résoudre le dilemme devant lequel nous place Maître Kyogen. Comment répondre lorsque toute réponse est impossible? Voilà l'impasse qu'il nous faut traverser pour ramener notre propre sagesse à la vie et laisser mourir nos illusions. Tu dois en arriver à être comme un homme qui se tient par les dents à la branche d'un arbre, nous dit Maître Kyogen. Cet homme n'est pas muet, il peut encore parler, mais il ne peut rien dire sans mourir en même temps. L'on dit parfois que l'une des meilleures façons d'entrer dans un koan consiste à se mettre dans la peau des personnages que l'on y rencontre. Ici, il y a cet homme, désespérément entêté à survivre, qui mord de toutes ses forces dans la branche d'un arbre, et un autre, homme ou femme, qui le questionne au sujet de l'essence du zen. L'homme qui est accroché à la branche doit répondre. Mais il ne peut le faire qu'au détriment de sa propre vie. Et celui ou celle qui le questionne ne peut se taire. La question revient sans cesse. Elle le presse de répondre. Voilà l'impasse que nous fait découvrir le zen. Comme nous le disait parfois M. Lo, nous sommes toutes et tous habités par une question inarticulée, une question sans forme, qui manque de mots pour être véritablement posée. Elle nous échappe sans cesse et nous n'arrivons pas à l'exprimer. Le plus souvent, elle se manifeste en nous par un sentiment de nostalgie, un malaise, une sorte d'insatisfaction vitale. Dès que nous tentons de formuler cette question, de la saisir en l'enfermant dans des mots, elle semble nous échapper, comme si elle s'éloignait de nous. Nous n'arrivons pas à poser cette question, mais elle exige une réponse. Elle nous presse de répondre. Quel est le sens de ma vie? En a-t-elle aucun? Qui suis-je vraiment? Au-delà de toutes mes croyances, de toutes mes convictions, de mes idées au sujet de moi-même et du monde, qui suis-je vraiment? Quelle est ma place dans le monde? Pourquoi suis-je ici? Ce n'est pas tout à fait cela, n'est-ce pas? Nous passons alors d'une question à l'autre. Nous cherchons une question, mais quoi que nous fassions, nous n'arrivons jamais à la trouver dans les mots. Et pourtant, elle exige une réponse. Comment répondre lorsque la question elle-même est impossible? Le zen nous plonge dans l'ambiguïté profonde de notre propre vie. Nous sommes pareils à cet homme qui se tient par les dents à la branche d'un arbre, mais qui doit en même temps répondre à une question. Le plus souvent, pour échapper à l'insécurité fondamentale qui découle de notre condition humaine, nous adoptons aveuglément quelques réponses qui nous tiennent lieu de vérité. Nous nous attachons à des idées reçues au sujet de ce que nous sommes et au sujet du monde qui nous entoure. Nous nous confinons à l'intérieur d'une identité plus ou moins vague et nous croyons comprendre le monde dans lequel nous vivons. On croit savoir ce que l'on est et ce qu'est le monde. Cela nous rassure. Nous avons alors le sentiment que nous pouvons avancer dans la vie avec une certaine confiance. Pendant un certain temps, l'on se sent moins vulnérable, comme si l'on avait réussi à se construire une vie sans ambiguïté, une vie où chaque chose a sa place, une vie où l'on se sent chez soi. Et l'on meurt à pleines dents dans cette vie. Nous nous tenons par les dents à la branche d'un arbre, nous dit Maître Kyogen. Mais tout cela est si fragile. Un jour ou l'autre, et cela est presque inévitable pour la plupart d'entre nous, à l'occasion peut-être de la mort d'un proche, d'une séparation amoureuse, d'un échec financier, d'une perte d'emploi ou d'une maladie, le doute reprend sa place. Des brèches s'ouvrent dans nos murs et nos certitudes se fissurent. L'on redécouvre alors que derrière toutes nos tentatives d'éviter l'ambiguïté de notre vie et l'insécurité fondamentale de notre existence, nos questions sont restées intactes. Qui suis-je vraiment? Cette vie a-t-elle un sens? Qu'est-ce que tout cela veut dire? Ce sont souvent ces questions elles-mêmes qui nous placent sur le chemin d'une voie spirituelle. Sans ces questions et le malaise qu'ils suscitent en nous, la pratique du zen reste presque toujours lettre morte. Maître Issan disait à Kyogen: oublie tout ce que tu as lu ou appris. L'on ne comprend plus ce qui arrive. Cela ne fait aucun sens. L'on a tout à coup des questions, mais plus de réponses pour les faire taire. Nos réponses habituelles ne suffisent plus à contenir nos doutes et nos questions tout à coup si inquiètes. La vie elle-même nous invite à oublier tout ce que nous avons lu ou appris. Quelqu'un lui pose une question et il doit répondre, nous dit Maître Kyogen. Mais comment répondre à la vie sans aucun mot, sans aucun langage, sans bouger ni rester immobile? Ici même, en cet instant même. Quoi que vous disiez, ce ne sera pas la bonne réponse. Quoi que vous trouviez dans votre propre esprit, ce sera déjà trop tard. Ce ne sera jamais ce que vous cherchez vraiment. Rappelez-vous l'histoire suivante. Un jour, lors d'une rencontre individuelle, Maître Rinzai frappa un moine avec son bâton. Ce dernier venait à peine de s'asseoir et n'avait pas encore dit un seul mot. « Pourquoi me frappez-vous ? » dit le moine. « Je n'ai même pas encore ouvert la bouche. » « À quoi bon attendre que vous ayez ouvert la bouche ? » lui répondit Rinzai. Rappelez-vous aussi un autre koan du Mumonkan. Bodhidharma demande à Wiki: « Que cherches-tu ?»« Je veux trouver la vérité, » répond Wiki. « La vérité ? Alors je n'ai rien à te donner, » dit Bodhidharma. « Je n'ai rien à te dire. » Wiki dit alors: « Mon esprit n'est pas en paix. Pouvez-vous l'apaiser ?» Bodhidharma répond: « Apporte-moi ton esprit et je l'apaiserai. » Et Wiki dit enfin: « j'ai cherché mon esprit partout, mais j'ai vu qu'il est inatteignable. J'ai cherché mon esprit partout, mais j'ai vu qu'il est inatteignable. Et Bodhidharma lui dit alors, « Alors je l'ai déjà apaisé. » Il y a un homme qui se tient par les dents à la branche d'un arbre. Il y a quelqu'un qui lui pose une question. Et Maître Kyogen nous invite à sans cesse poursuivre notre questionnement. Comment répondre? Comment répondre? Il nous invite à poser ces questions de tout notre être, comme si nous étions suspendus par les dents à la branche d'un arbre, nos bras et nos jambes se balançant inutilement dans le vide. Comment répondre à cette question impossible que la vie elle-même nous impose d'entendre? Un moine demanda un jour à Maître Tozan, « Quelle est la signification du koan de Maître Kyogen, l'homme perché dans un arbre ?» Maître Tozan répondit, « Chantons la chanson de la perdrix alors que le vent est au sud. » En Chine, on raconte que le chant de la perdrix, un oiseau qui vit surtout dans le sud du pays, évoque la mélancolie pour les gens de cette partie du territoire. Ici, l'expression « la chanson de la perdrix » qu'utilise Maître Tozan réfère au titre d'une chanson ancienne. Un poème de l'époque disait en effet « Si vous recevez des gens du Sud, ne chantez pas la chanson de la perdrix. » Si vous le faites, vos visiteurs pourraient alors se sentir tristes et mélancoliques. La réponse que donne Maître Tozan au moine qui l'interroge s'appuie sur ce poème, mais elle est paradoxale. Il nous invite à chanter ensemble. Tozan dit en effet, « Chantons la chanson de la perdrix alors que le vent est au sud. » Mais pourquoi dit-il cela? La tristesse et la mélancolie ne vont-elles pas alors voyager partout vers le sud? En entendant ces mots, je ne peux m'empêcher de penser que c'est en nous-mêmes que le vent est au sud et que c'est là et nulle part ailleurs que la nostalgie et la mélancolie vont apparaître. Est-ce là la signification du koan de Maître Kyogen? Attendons encore un peu.